Bonjour. Pour ce dernier vendredi de l'année 2025, je voudrais vous parler d'un sujet qui a à voir avec ce que la Bible appelle l'intelligence. Le mot intelligence vient d'un mot qui est un mot grec, nous. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien. Nous, nous. En fait, ce mot est employé 24 fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, alors il leur ouvrit l'esprit ou l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 45. Ou alors dans Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens, à leur intelligence réprouvée pour commettre des choses indignes. Dans Romains 7, 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Dans Romains 11, 34, « Qui a connu la pensée ou l'intelligence du Seigneur ?» Dans Romains 14, 5, « Que chacun ait en son esprit... » dans son intelligence, une pleine conviction. Enfin, je ne vais pas vous donner les 24 textes. Là, vous pouvez aussi chercher dans une concordance et vous trouverez les versets. Mais quel effet cette intelligence a-t-elle sur la vie d'un chrétien, sur son travail, sur son service, sur sa marche, son comportement Eh bien, c'est un fait indéniable que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus ont un esprit et un cœur nouveau. Bon, ça c'est sûr. Qu'un chrétien soit faible ou fort, il est né de Dieu et il possède un esprit et un cœur nouveau. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé de cela. Ainsi, il peut aimer les gens avec son cœur, servir Dieu avec son cœur, il est capable de tout faire avec son cœur. Pourtant, bien qu'il ait un cœur nouveau, la partie intelligence de ce cœur peut ne pas être renouvelée. Et ça, c'est... Selon la logique humaine, si le cœur de l'homme est renouvelé, la conscience et l'intelligence inclus dans ce cœur devraient être également renouvelées, mais c'est pas vraiment vrai dans la réalité. La partie du cœur nommée conscience... elle devient neuve au moment du salut, mais par la suite, elle ne peut pas toujours le rester ou ne pas être continuellement, quotidiennement renouvelée. Un peu comme un vêtement, si vous voulez, quand il est neuf, ben voilà, on vient de l'acheter, il est neuf, mais il ne peut pas rester neuf tout le temps. Il faut un surcroît de travail pour le garder continuellement neuf. Et de la même manière, notre intelligence, au moment du salut, est neuve. Mais après quelque temps, elle peut cesser de l'être. Alors, il y a beaucoup de croyants qui ont fait cette expérience. Quand une personne vient d'être sauvée, sa conscience est neuve, et elle se trouve rétablie dans sa véritable fonction, qui est de haïr, d'abhorrer le péché. Mais cette conscience, est-ce qu'elle va continuer toujours à être neuve? Je me rappelle que le frère Raphaël, l'homme qui m'a emmené au Seigneur, me disait toujours « La conscience dans notre cœur, c'est un peu comme une roue avec trois pointes. Et quand on fait quelque chose de mal, ça tourne et ça griffe, on le sent. Bon, la deuxième fois, ça tourne encore, ça griffe encore et puis on le sent. Mais à force de tourner, les griffes, elles s'usent, puis on sent plus rien. Et alors on n'a plus une conscience nette. Si la personne pêche et donne prise au péché de façon répétée, eh bien, sa conscience refuse d'écouter la voix. Et au bout d'un certain nombre de fois, la conscience ne prendra plus la parole en lui et aura perdu sa fonction, en fait. Or, de même qu'il est possible pour la conscience d'être restaurée, puis de perdre par la suite sa sensibilité, c'est également possible pour l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Quelle est cette intelligence dont parle le Nouveau Testament, eh bien, on peut considérer ce sujet sous plusieurs angles différents du point de vue physique. On peut dire que l'être humain possède un cerveau. Dans le domaine psychologique, on a une intelligence. Et spirituellement parlant, eh bien, nous possédons une intuition. Ce qui se rapporte à la matière se nomme le cerveau, et ce qui se rapporte à l'intellect ou au raisonnement est appelé l'intelligence. On n'oserait pas dire que l'intelligence, selon le sens donné au mot dans le Nouveau Testament, représente la totalité de l'activité intellectuelle. Elle en occupe néanmoins quand même une grande partie, c'est vrai. Via l'intuition de notre esprit, nous recevons une impression de Dieu. Et par l'intelligence de l'être que nous sommes, eh bien cette impression de l'intuition se trouve interprétée, puis portée à notre connaissance. Nous connaissons la volonté de Dieu par l'intuition. Mais l'intuition étant irrationnelle et non systématique, c'est pas... Elle a besoin d'être expliquée par l'intelligence. C'est pourquoi il y a des doctrines, afin de mettre au clair toute chose. Bon, on peut aussi ajouter que l'homme possède des différents organes de la connaissance. Dans le corps se trouve le cerveau, dans l'esprit il y a l'intuition, et puis l'être que nous sommes, eh bien, il se débrouille avec tout ça, il réfléchit. Quand on dissèque le cerveau, on voit quoi? On voit rien d'autre que de la substance grise et de la substance blanche. Mais l'intuition est quelque chose que parfois nous sentons et que parfois nous ne sentons pas. Par moments, elle semble s'imposer, d'autres fois, elle apparaît se retenir, et c'est cette entité que nous trouvons tout au fond de nous, mais l'intelligence se tient entre l'intuition et le cerveau. Elle interprète le message de l'intuition et conduit le cerveau à l'exprimer en parole, en acte. Mais si l'intelligence d'un croyant est défectueuse, même s'il possède une solide intuition et un bon cerveau, il mènera une vie dépourvue de standards. Il passera son temps dans des activités stupides, il sera incapable d'exprimer ce qu'il abrite en son fort intérieur, même au moment de la prédication. Il piche que dalle, il comprend pas. Et tout ça parce que son intelligence n'a pas été renouvelée. On va considérer tout d'abord l'intelligence d'un pêcheur. Un pêcheur possède une intelligence qui est corrompue, réprouvée. On trouve ça dans Romains 1, 28, dans 2 Timothée 3, 8. Il a une intelligence futile et vaine. Éphésiens 4, 17. Charnel. Colossiens 2, 18. Souillé. Dans Tite 1,15, vous irez lire tous ces textes. Telle est la condition de l'intelligence d'un pécheur. Mais maintenant vous êtes sauvés. Pourtant, si vous vous rappelez comment vous viviez avant de faire l'expérience de salut, que pouvait-on dire de votre attitude envers Dieu? Quelle est la situation de l'intelligence d'un pécheur devant Dieu? Vous rencontrez un pêcheur stupide qui connaît presque rien, pratiquement rien, et vous commencez à lui parler de Dieu, et il vous oppose toutes sortes d'arguments, il affirme qu'il n'y a pas de Dieu, et puis alors nous, qui sommes croyants, qui avons eu cette révélation, nous sommes surpris, n'est-ce pas, par le raisonnement et les paroles de l'insensé. La Bible dit, c'est... l'insensé dans son cœur, il dit, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Parce qu'il a l'intelligence obscurcie. son intelligence est obscurcie, elle est morte, son esprit est dans les ténèbres les plus complètes, et puis il a aucun moyen de connaître Dieu, il est totalement incapable de comprendre les voies de Dieu. Qu'est-ce qui fait comment expliquer ça? Son intelligence réprouvée, futile et souillée, c'est ça qui le pousse, qui le conduit. Ça, c'est la situation de l'insensé, de ce que la Bible appelle l'insensé, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne... Mais qu'en est-il de l'homme à l'esprit vif, celui qui est capable de discuter de Dieu philosophiquement, par exemple? Eh bien, il professe tout savoir, et pourtant, il veut pas croire en Dieu. Il essaye de trouver de nombreuses raisons, de réfuter son existence. Il s'oppose à Dieu autant que le stupide. Pourtant, il est intelligent, il est philosophe, etc. Bien que le sage et le stupide soient à des lieux l'un de l'autre, dans bien des domaines, pour ce qui est de ne pas croire en Dieu, ils sont parfaitement d'accord. Ceci n'a d'autre cause que leur intelligence obscurcie à tous les deux et à leur esprit qui est mort. Ils sont incapables de recevoir la lumière de Dieu. Leur pensée s'égare et se dérègle, et c'est pourquoi ils ont des vies déréglées. C'est pourquoi Dieu déclare à l'égard de ceux qui périssent que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. On trouve ça dans 2 Corinthiens 4, 4. Qu'est-ce qu'on entend par être sauvé? Ça veut simplement dire connaître Dieu. Jésus le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est la capacité de connaître Dieu. Être sauvé, ça ne veut pas dire être capable de parler de certaines doctrines, quoi qu'on en ait besoin, mais bon, c'est avoir une connaissance vivante de Dieu. Si nous demandons à l'homme le plus intelligent, le plus instruit au monde, de s'entretenir avec un jeune croyant nouveau converti, le premier pourrait opposer des centaines d'arguments pour s'élever contre Dieu, auxquels le second n'aurait pas de réponse. Néanmoins, le jeune croyant pourrait dire « Je sais que j'ai la vie éternelle, je le sais, je sais que je suis sauvé. » Voilà la différence entre eux. L'intelligence d'un incrédule, elle est bloquée, elle est privée de lumière, mais dès l'instant où il est sauvé, où il reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, comme son maître, son intelligence reçoit la lumière, de sorte qu'il connaît Dieu. Beaucoup voient leurs yeux s'ouvrir quand ils entendent l'Évangile pour la première fois. Ils savent qu'ils sont pécheurs, ils savent que Jésus-Christ est leur sauveur, bien qu'ils soient encore incapables d'expliquer intellectuellement toutes ces choses, même leur expérience. Moi, je me rappelle, quand je me suis converti, j'aurais été incapable d'expliquer ce qui m'arrivait, mais je savais. Ils possèdent la connaissance leur révélant qu'ils ont été éclairés et qu'ils sont maintenant sauvés. Écoutez, je vais arrêter là parce que je vous ai donné beaucoup de versets à lire. Et je prie Dieu qu'il vous donne de l'intelligence pour aller les lire et bien comprendre ce que je vous ai dit. Et ça vous aidera à amener des personnes à Jésus, parce que c'est notre travail le plus sacré, c'est de conduire les gens à Jésus. Mais avant de les conduire à Jésus, c'est pas simplement par des paroles, des actes. C'est par la révélation du Saint-Esprit. Il faut être des hommes et des femmes de prière avant d'être des gens qui vont parler de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Au revoir.